Vous écoutez Radio Avalon, il est 20h après la déferlante vénère. Bienvenue dans Reggae Stories qui, comme son nom l'indique, se laisse porter au gré des nombreuses histoires qui ont fait, font et feront le reggae à travers le monde. J'ouvre donc le tome 3 de mon grand livre du reggae, chapitre 22, sur l'album Survival de Bob Marley, paru en 1979. Le 2 octobre 1979 paraissait l'album Survival de Bob Marley and the Wailers. Panafricaniste comme jamais, on y retrouve le fameux Zimbabwe. Bob Marley avait un peu la même vision qu'André Gide. Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Lorsque le chanteur et compositeur jamaïcain se penche sur ce qu'il appelle la survie du monde dans Survival, il est toujours rebelle, bien que très loin de ses années les plus difficiles d'une jeunesse dans les bas-fonds de la Jamaïque, à lutter littéralement pour survivre et manger. En 1979, Marley est reconnu et même installé. Depuis 5 ans, il reçoit le soutien du puissant label Island et de Chris Blackwell, qui lui a même offert une immense maison sur le 56 Hope Road, rue de l'Espoir, dans les beaux quartiers de Kingston. Mais Marley a dû la quitter pendant plusieurs années pour assurer sa survie au sens propre. Le 3 décembre 1976, il échappe miraculeusement à une tentative d'assassinat chez lui à Hope Road, ce qui le pousse à l'exil vers Londres et les Bahamas.
My eyes this morning.
Trois ans et deux albums plus tard, il revient enregistrer en Jamaïque et parle enfin de cet épisode marquant de sa vie dans Ambush in the Night, chanson qui clôture Survival, dans laquelle Marley raconte qu'il doit sa survie au pouvoir du Tout-Puissant et à la main de sa majesté Haïlé Sélassié. Voilà pour la conclusion de cet album qui s'ouvre par un murmure, un peu plus de batterie, ordonne doucement Marley au début de So Much Trouble in the World. Un peu comme si le chanteur avait été pris en flag de quête de perfection, dirigeant l'ingénieur du son avant d'évoquer, en chantant, le désordre et les imperfections du monde. Ce genre de petites phrases spontanées sont rares sur un album studio, tout simplement parce que ces commentaires sont généralement faits au mixage, donc loin des micros. Mais dans ce disque, Marley veut restituer la vibe live, l'ambiance très organique et festive de cet enregistrement qui célèbre son retour à la maison, dans son nouveau studio, Tuff Gang. Je garde un souvenir incroyable des sessions de Survival, raconte Dean Fraser, saxophoniste toujours très demandé à Kingston. Il y avait une entente totale entre nous tous. On débordait tous d'idées et d'énergie. On avait même composé une double intro pour le titre Wake Up and Leave.
Tomorrow you're buried in a casket.
Le morceau sonne d'ailleurs presque comme un concert dans lequel Marley lâche même le chant pour demander à la cantonade « comment ça va ?» et lancer le solo de sax improvisé par Fraser. Ce vent de liberté est probablement dû au fait que Chris Blackwell, le producteur d'Island, s'efface alors de plus en plus pour laisser à Bob Marley gérer ses affaires musicales, mais aussi à l'énergie collective que le chanteur insuffle dans ce projet qu'il voulait au départ appeler « Black Survival », avant de décider finalement que sa musique était pour tout le monde. Marley est néanmoins persuadé que « noir » est synonyme de survie. Il évite soigneusement de parler directement de sa Jamaïque, qui s'enfonce dans la violence et les meurtres quotidiens, mais son survival évoque le monde de cette fin des années 70. Celle de l'apartheid qui n'en finit pas de ternir l'image d'une Afrique qui commence à panser les blessures de la décolonisation. Après l'Angola et le Mozambique, Bob Marley soutient sans relâche le Zimbabwe et l'Afrique du Sud dont la libération tarde à voir le jour. En juillet 1979, les Wailers sont d'ailleurs les têtes d'affiche de l'Amandla Concert à l'Harvard University de Boston avec Patti LaBelle, Eddie Palmieri, Babatunde Olatunji. Les fonds sont destinés à soutenir la lutte anti-apartheid. Sur scène, ils lancent « Un jour prochain, l'Afrique entière sera libre ». Quelques mois plus tard, en octobre 1979, l'album Survival est le premier disque à montrer des drapeaux de pays fraîchement indépendants, encore inconnus du public américain, avec en bonus un poster explicatif.
Trying to build
C'était Bob qui trouvait les titres des albums. Mais je lui suggérais toujours de prendre un mot choc comme Survival, Uprising, Confrontation, raconte Neville Garrick, l'illustrateur de ses pochettes les plus connues. Survival était un album très politique. J'ai tout de suite été attiré par les nouveaux drapeaux africains et leurs couleurs vert, jaune, rouge. Je ne connaissais pas tous les pays, alors j'avais pris contact avec les Nations Unies pour être sûr que je n'en oublierais aucun. Bien sûr, je n'ai pas mis celui de l'Afrique du Sud encore sous l'apartheid. Et puis, j'ai aussi inclus des plans des cales des bateaux négriers où étaient entassés les esclaves. Ce dessin était censé représenter la diaspora noire en dehors de l'Afrique, sinon j'aurais eu à me poser la question de savoir si je devais y inclure un drapeau de la Jamaïque ou des États-Unis. Mon problème ? Le Zimbabwe. C'était encore la Rhodésie avec un drapeau colonial. J'ai finalement inclus les drapeaux des deux partis qui combattaient pour l'indépendance, le ZANU et le ZAPU. Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle, 'cause that's the only way. Le 17 avril 1980, Marley la chante d'ailleurs à Salisbury, aujourd'hui Harare, pour fêter l'indépendance de l'ex-Rhodésie et investit des dizaines de milliers de dollars pour organiser un concert dans ce pays qui n'a jamais vécu un événement d'une telle ampleur. Le morceau, sorti quelques mois plus tôt sur Survival, a été composé quelques années plus tôt lors de son premier voyage en Éthiopie. Quand Marley arrive, il est devenu l'hymne des Freedom Fighters. Le nouveau drapeau du Zimbabwe se hisse devant le Premier ministre Robert Mugabe, qui n'a pas encore eu le temps de semer la terreur, Indira Gandhi et le prince Charles. Puis, on n'a pas bien compris ce qui se passait, raconte le guitariste Junior Marvin. Très vite, on sent les gaz lacrymogènes et la police intervient brutalement. On est obligé de quitter la scène. Tout était très tendu. En fait, c'était juste les gens qui voulaient entrer dans le stade pour nous entendre jouer Zimbabwe. Après un retour au calme, les Wailers reviennent sur scène. Le stade de Salisbury devient alors aussi symbolique du combat du peuple noir que le stade zaïrois qui aura rendu célèbre le pays en accueillant le combat Foreman Ali en 1974. Bob Marley voit son rêve se réaliser, mais il est affecté par la tournure que prend le concert. Le groupe va rejouer devant 100 000 personnes le lendemain. J'avais entendu parler de l'Afrique, lu des livres, mais c'est grâce à la musique de Bob que j'ai réellement expérimenté ce survival, ce combat, raconte le guitariste américain Al Anderson. Au Zimbabwe, nous sommes devenus les figures de l'indépendance. Je me souviens du nouveau drapeau hissé, c'était très émouvant. Je n'ai jamais vu autant de gens fêter une victoire du combat contre Babylone. All they want us to do is Je referme le tome 3 de mon livre du reggae sur ce chapitre dédié à l'album Survival de Bob Marley et vous donne rendez-vous la semaine prochaine en clôture de la soirée rock pour un nouveau chapitre. Excellente fin de soirée sur l'antenne de Radio Avalon.
Easy music.